ce matin. On parle travail, parce qu'on a tous à travailler, on a tous la responsabilité de travailler, et ce n'est pas toujours facile. Peut-être ce matin, vous êtes dans un travail, et votre travail dernièrement, il est lourd. Peut-être vous êtes découragé. Vous avez perdu aussi espoir sur la raison d'être de votre travail. Peut-être vous chialez plus souvent qu'autrement sur votre travail, plutôt que de remercier Dieu. Et ce matin, j'espère qu'on va vous encourager par la parole de Dieu à garder le cap sur le travail. On est dans une série de 3 enseignements sur le travail. Pourquoi le travail la semaine dernière? Et le but du travail, c'est de glorifier Dieu. Peu importe ton travail, peu importe les qualités qu'il t'a données, peu importe que c'est le travail que tu veux ou que tu veux pas, Dieu veut que tu le glorifies, qu'il soit honoré dans ton lieu de travail, dans la manière dont tu te conduis, que tu parles, que tu agis, que tu fais avec vaillance ton travail. Ton travail, c'est pour glorifier Dieu. Et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Cette semaine, on va regarder, Dieu veut travailler sur toi et avec toi au travail. Et la semaine prochaine, c'est le pasteur Tony qui va compléter cette série. Et on va avoir un invité aussi, Will Pugh, qui va venir nous conduire aussi dans la louange. Alors, on fait spécial. Il vient avec ses deux fils. Et il va nous conduire dans un temps spécial de louange dimanche matin prochain. Donc, à ne pas manquer, c'est pasteur Tony et aussi Will Pugh qui va nous conduire dans la louange. C'était justement un des anciens, un des pasteurs sur la rive sud dans notre église fille. Travail. Vous savez, le travail apporte des opportunités uniques à chacun. Peut-être que ce n'est pas toujours le travail que tu veux, mais ton travail, les dons que Dieu t'a donnés, les capacités et talents que Dieu t'a donnés, t'amènent à un lieu de travail. Et dans ce lieu de travail-là, Dieu donne à chacun des opportunités uniques. Ça ne sera pas les mêmes que moi, les miens ne seront pas les vôtres, et vice-versa, parce qu'on est tous appelés à un différent endroit avec notre appel. Je me rappelle avoir travaillé, je l'ai mentionné la semaine dernière, comme sauveteur à la ville de Montréal. Ça a été mon dernier travail avant de commencer comme pasteur à plein temps, l'été 98. Et j'ai travaillé à une piscine que je ne m'attendais pas, à Rivière-des-Prairies. Et j'ai passé l'été là, travailler avec une équipe de sauveteurs, on était 20 quelques, à travailler ensemble. Et un de ces collègues-là était quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, un bon nageur qui avait arrêté, qui était coach de l'équipe de natation. Et on a travaillé ensemble tout l'été, on l'a vraiment connecté. En peu de temps, Stéphane et moi, on est venus vraiment amis, vraiment proches. C'était naturel, on s'entraînait ensemble, tous deux passionnés de nager. Et lui, il était coach, fait qu'il était bon pour préparer des entraînements. Et on avait du bon temps et on avait aussi beaucoup d'occasions de parler du Seigneur ensemble. Il était curieux, on en jasait, c'était libre, c'était simple, c'était tellement pas compliqué. Et à la fin de l'été même, on avait des plans pour sortir ensemble à sa copine et moi et Julie qui étaient fiancés, on la laisse marier au mois d'octobre. Et surprise, après avoir passé cet été-là, il m'a même trouvé un emploi pour étirer l'été dans une piscine parce que les endroits étaient fermés, il restait. Puis on était vraiment là, connectés naturellement ensemble. Ironie du sort, à la mi-septembre, j'ai reçu l'appel qui s'était noyé dans sa piscine. Un sauveteur, un nageur exceptionnel, un homme qui était un coach de natation dans le lieu où ce qu'il était confortable, dans le lieu où ce qu'il était en sécurité dans une piscine. On croit qu'il était probablement en train de faire des longueurs sous l'eau alors que la piscine était plus fraîche avec les nuits. Et à force de faire, puis là, à un moment donné, tu peux étirer la sauce et à un moment donné, perdre connaissance, à faire une sorte d'hyperventilation, je vais l'expliquer, mais tout ça pour dire qu'on croit qu'il a perdu connaissance tout simplement en faisant des longueurs sous l'eau dans sa piscine. Le lieu où est-ce qu'on est confortable comme sauveteur, où est-ce qu'on est en contrôle, où est-ce qu'on on pense que, puis à 20 ans, il n'avait pas encore eu ses 21 ans, il allait les avoir. Le Seigneur lui a donné sa date de fin de vie. Pour une raison qui m'échappe. Mais je sais une chose, c'est qu'on a pu passer l'été au complet à parler du Seigneur Jésus, de la parole de Dieu. J'ai pu partager l'Évangile, et puis j'ai pu partager l'Évangile aussi après ça, avec sa copine. Et c'était la journée de ma fête, de mes 23 ans, qu'on a eu ses funérailles. T'oublies pas ça. Hein? On était 20 quelques sauveteurs à venir porter notre sifflet dans son cercueil, à tout déposer notre sifflet là. Après avoir travaillé tout un été. C'est extrêmement significatif et ironique aussi que la vie est courte dans ton milieu de travail. Mais j'ai eu une opportunité d'y amener l'Évangile. Dieu savait tout cela et qu'est-ce que dans son plan, tout ça fait dans son cœur, etc. Je ne sais pas du tout comment loin est allée la semence. Mais Dieu m'a donné à moi une opportunité auprès de lui pour ce travail-là qui a duré que 2 mois dans ma vie. Mais il y a d'autres opportunités uniques que vous avez dans votre propre travail, dans mon travail ministère pastoral, mais qui est aussi un travail. D'autres opportunités sont présentées à moi qui sont uniques. Je me rappelle avoir un été, je viens de naître de déménager en 2005 d'une nouvelle maison et j'ai été porté à une invitation pour un déjeuner de l'espoir qui se faisait à l'église. Et mon voisin a gentiment revenu pour dire « ça ne m'intéresse pas, puis je ne veux pas qu'il reste chez nous, puis je veux que tu le saches. » Il est venu me le porter à ma porte, me le faire savoir très clairement. J'ai compris le message. L'ironie du sort, c'est que dans la même été, j'avais été invité pour aller, puis ça m'est tombé du ciel comme ça, aller inviter pour prier au Grand Prix. Pendant 3 années, on m'a invité parce que quelqu'un à qui on apportait l'Évangile était responsable du protocole et le curé ne pouvait pas se tenir pour raison X. Alors, il a invité le curé Baptiste à venir faire la prière protocolaire. Et là, tout à coup, ce voisin-là, à qui j'ai donné l'invitation l'été, qui me le retourne, il me voit au Grand Prix devant 50 000 personnes. Je le croise sur le chemin en plus. Ironie du sort. À prier devant 50 000 personnes, dans une prière très simple en anglais, en français, où ce que je pouvais dessus la ligne de départ, avec le maire, avec etc., prononcer le nom de Jésus devant 50 000 personnes. J'aurais pu jamais orchestrer une chose comme ça. Mais ça m'est arrivé comme ça et j'ai pu le faire quelques années, rencontrer des gens à la ville et qui ont préparé d'autres rencontres pour plus tard dans la vie, où ce que j'ai pu prononcer le nom de Jésus. Il y a un été que je l'ai fait, c'était quand Cédrica Provencher a été enlevée. J'ai pu prier au Grand Prix justement à ce sujet-là. On m'a donné la permission de prier le nom de Jésus pour la protection des courseurs, pour Tagliani et toute leur gang qui était là, etc., dans le nom de Jésus, en anglais et en français. Mais ça, je pouvais juste être là puis répondre à une invitation qui est venue par quelqu'un à qui j'ai apporté l'Évangile. Ça ne s'orchestre pas, ce genre de choses-là. Right? Il y a quelques années en arrière, je raconte une dernière expérience, il y a juste 5 ou 6 ans. L'expérience que tu ne mets pas dans ta bucket list, tu sais. Un jeune homme qui s'est noyé ici sur l'île Saint-Quentin. Certains s'en rappellent. Hein? Une femme qui a vu son fils, une dame de l'Afrique, qui est avec ses 4 enfants, a vu son fils de 15 ans couler devant elle dans les eaux du Saint-Maurice et du Saint-Laurent sur l'île Saint-Quentin. J'avais appris la nouvelle. Et le lendemain, j'ai une dame du CLSC qui m'appelle pour faire le pont et me demander si je serais disponible pour rencontrer la dame en question qui a perdu son fils parce qu'elle était dans son pays, dans une église baptiste. Tu ne peux pas orchestrer ça. Right? Et quelques jours plus tard, les enquêteurs m'ont demandé la permission, après avoir passé du temps avec elle. Le Seigneur avait permis qu'elle retrouve du calme. Ils avaient été marqués ça. Ils m'ont appelé, m'ont demandé, est-ce qu'on peut vous appeler quand on va retrouver le corps, M. Lapierre, pour nous accompagner voir la maman? Tu n'es pas préparé pour ça, puis ça ne fait pas partie d'une bucket list de choses que tu veux faire dans la vie. T'sais. Vraiment pas. Mais le Seigneur m'avait préparé pour ça, sans que je le sache, pour toutes ces choses-là, right? À chacun qui donne une opportunité et donne aussi les choses qui nous préparent à ça. Et j'ai pu rencontrer Diane, et la journée que je nageais un jour dans le Saint-Maurice, je suis sorti de l'eau puis j'avais un téléphone et mon cœur a commencé à battre vite parce que j'ai vu que j'avais un message de l'enquêtrice qui l'avait repêché à 4 km de où je nageais. Ça ne donne pas un feeling le fun. Et là, habillé avec des shorts puis un chandail rouge, je devais aller accompagner les enquêteurs pour aller voir Diane. C'était terrible de voir une femme s'effondrer comme ça. Se coucher à terre pour la tenir dans nos bras, crier et de juste l'aimer pendant qu'elle a mal. Et après ça, de l'accompagner pour aller ensemble identifier le corps. On ne se prépare pas pour ça puis on ne demande pas ça au Seigneur, right? Mais le Seigneur nous prépare dans notre vie à des choses pour lequel il nous a mandaté. Témoigner de quelqu'un, être là à un moment qu'on ne pourrait jamais prévoir ou qu'on ne voudrait pas être là, mais que Dieu nous a préparé, être prêt à une opportunité merveilleuse de le glorifier, peu importe c'est quoi. Chacun d'entre nous, dans son lieu de travail, a des opportunités. Et lorsque j'ai fait les funérailles de ce jeune-là, il y avait 140 jeunes du secondaire à qui j'aurais pu jamais présenter l'Évangile. Jamais! Il y avait des professeurs qui se roulaient les yeux à m'entendre. Qui voulait vomir pendant que je parlais. Mais la maman m'avait demandé de prêcher l'Évangile de Jésus-Christ. Et c'est ce que j'ai fait pour la gloire de Dieu. Et 140 jeunes ont entendu la parole de Dieu lue. Ils ont pendant 20 minutes entendu le message de l'Évangile et que Jésus-Christ est sauveur, que le Créateur a envoyé son Fils, qu'il y a un chemin pour être pardonné. J'aurais jamais eu l'opportunité de présenter l'Évangile à toute cette classe du secondaire. Mais par ce moyen et par cette maman qui a demandé, j'ai dû faire ce qu'on m'a demandé. Même s'il y a des professeurs qui étaient là, par respect, mais qui roulaient les yeux à entendre la parole de Dieu lue et proclamée. On prend les opportunités que Dieu nous donne, tous et chacun. Et vous avez des opportunités à vous dans votre lieu de travail, dans votre quartier, dans votre famille, avec vos qualifications que Dieu vous a données et vous a préparées à travers les années pour prendre un rôle dans votre travail que vous n'auriez pas prévu, que vous ne connaissez pas encore. Ou peut-être, en vous disant ces histoires-là, ça vous rappelle des opportunités que vous avez vécues au travail et que Dieu vous a permis de le glorifier en toutes sortes de circonstances, dans des choses simples, comme des choses qui peuvent être peut-être des plus hauts faits, qui sont arrivés, qui sont plus marquants, plus glorieux à raconter peut-être. Et pour glorifier Dieu. Et j'espère qu'en vous racontant ça, il y a des choses qui vous viennent à la pensée et que ça vous rappelle la vérité que le travail que tu as dedans présentement, là, Dieu veut que tu le glorifies. Dieu veut que tu restes disponible. Dieu veut que tu prennes soin des gens autour de toi et que tu le glorifies, que tu l'aimes ta job ou pas, que Dieu te donne la grâce, matin du Seigneur, aide-moi à aimer la job que tu me donnes dans le nom de Jésus. Puis que ma job t'honore, plutôt que ça soit un purgatoire pour moi, sur lequel je suis obligé de travailler. Que Dieu me redonne la joie de travailler et que mon but soit clair pour lui. Et ce matin, c'est de se redonner cette perspective. J'aimerais vous inviter à aller dans les Écritures, dans le livre d'Exode, chapitre 31. La semaine dernière, on a pris le temps de regarder, justement, je vais vous le remettre dans quelques instants, mais le mouvement AVAD, la publicité sur cette conférence qui est là, AVAD, qui est le mot pour travail, service dans l'Ancien Testament, cette conférence qui est organisée par Marc Pilon et toute une équipe du mouvement AVAD pour encourager les travailleurs à vivre leur foi au travail et de ne pas faire une dichotomie entre les deux, mais qu'ils soient harmonieux ensemble et que chacun se rappelle la raison pour quoi on travaille, pour honorer Dieu. Et donc, c'est une conférence qui se fait le 1er novembre. Je vous mettrai la fiche tantôt. On a regardé également que le premier endroit où Dieu rencontre l'être humain est dans son travail, dans Genèse, chapitre 2. Avant même de créer la femme, Dieu rencontre Adam comme un employeur rencontre son employé. Mais il est clair que c'est un partenariat ensemble. Et Dieu amène les animaux à Adam, et Adam crée, que Dieu a créé, mais Adam crée et organise des noms, et organise les groupes de noms pour les différents animaux. Dieu lui donne la capacité de créer des noms en regardant les caractéristiques de chaque animal. Dieu lui donne ces capacités-là. Un homme intelligent dès le début de la création. Doué de capacité de pouvoir construire des noms à partir de ce qu'il voit que Dieu lui a donné de voir, de comprendre, et l'image de Dieu en lui permettant de créer, comme le Créateur, des noms pour chacun de ces animaux-là, ayant déjà le langage. Tout est là, montrant la création parfaite de Dieu. Et nous sommes invités à prier Dieu au travail pour lui demander la sagesse de nous aider à faire ce qu'il nous demande au travail, qu'on se sente apte ou non. Dieu veut te rencontrer dans ton travail présentement et être partenaire avec toi dans ton milieu de travail, dans ta vie et dans lequel il veut travailler. Non seulement pour que toi, tu sois participant dans son travail, mais dans ton cœur aussi, il veut te travailler ton caractère, tes aptitudes, te développer dans ton milieu de travail. Et ce matin, j'aimerais regarder une histoire qu'on ne connaît peu. Au lieu de regarder Joseph, qui aurait été plus facile, un classique, et je vous invite à le regarder aussi. On fera quelques commentaires tantôt, brièvement. J'hésite à prendre une autre histoire peu connue. Peut-être c'est la première fois que vous lisez ce texte dans Exode, chapitre 31, de ces deux hommes travailleurs et ce qu'on dit sur eux. Et j'aime ça des fois explorer des endroits qu'on n'a pas connus encore. Deux figures fascinantes, souvent négligées et riches spirituellement, surtout quand on parle de travail, de dons, de présence de Dieu dans nos compétences professionnelles. Et on va lire ces quelques versets au début du chapitre 31 de Exode qui vont comme suit. L'Éternel parla à Moïse et il dit, « Sache que j'ai choisi Betsalel, le fils d'Uri, le fils de Hur, de la tribu de Juda. » Et certains ici ont souligné le mot Hur, étant peut-être cet homme-là, justement, son grand-père, celui qui, avec Moïse, avait tenu les bras de Moïse, vous rappelez, Aaron et Hur. Alors, possiblement, le petit-fils de cet homme-là, possiblement, c'est pas 100% clair, mais les généalogies semblent pointer dans ce sens-là. Il dit, « Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. » Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver des pierres à chasser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai aussi donné pour aide Oholiab, fils de Achimac, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. La tente d'assignation, l'arche, et là, il fait la liste jusqu'au verset 11 de tous ces morceaux importants qui vont faire partie de ce qu'on appelle la tente de la rencontre ou la tente d'assignation, le lieu où ce que Dieu se faisait un tabernacle, un lieu où ce qu'il allait résider et rencontrer les sacrificateurs, où il y aurait les sacrifices. C'était l'endroit où ce que Dieu allait être là sur terre parmi le peuple, dans cette tente de la rencontre, où ce que Moïse allait venir rencontrer Dieu et recevoir les directives de l'Éternel pour le peuple de Dieu. On vient de lire la Bible, on va prier ensemble. Seigneur, bénis la parole de Dieu dans nos cœurs ce matin. Rencontre-nous dans nos besoins. Que ta parole nous parle puissamment dans notre rôle, nous encourage, nous corrige des mensonges, Seigneur, nous redonne de la perspective. Et peut-être aussi ce matin, si je ne suis pas né de nouveau, m'amène aussi à donner ma vie à Jésus et d'arrêter de repousser, de céder le contrôle de ma vie à celui qui l'a créé, le Créateur de l'univers, qui m'invite à le servir librement, qui m'invite à comprendre que le travail n'est pas une sentence, mais un privilège pour honorer Dieu. Parle-nous, Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais faire 6, pour les premiers 15-20 minutes, 6 observations pratiques sur ce qu'on observe ici, sur la question du travail pour la vie de ces deux hommes. Alors, voici l'affiche, justement, au sujet du 1er novembre, cette conférence à Vade qui se passe sur le bord de l'autoroute 20, le lieu de conférence étant à Saint-Hyacinthe. Alors, pour toute information, vous pouvez le trouver ici, la conférence à Vade ou mouvement à Vade, très facile à trouver. Il y a le code QR, etc. Betsalel et Oholiab. Oholiab, je vais peut-être le massacrer un petit peu, c'est pas grave, OK? Dieu appelle des ouvriers, pas seulement des prêtres et des prophètes. Ici, il dit « J'ai choisi ». Et ici, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un homme de Dieu qui va amener des sacrifices, ce n'est pas celui qui va apporter la parole de Dieu, c'est celui qui va utiliser ses mains pour construire. Pour la première fois, c'est utilisé en dehors du cadre d'un rôle dit « spirituel ». Et tout à coup, on réalise par l'invitation que le choix d'un travail spécifique, d'un talent est utilisé et ordonné par Dieu dans un homme qui est bon de ses mains, à qui Dieu l'a rendu capable d'être un artiste, de travailler. Ça me dépasse complètement. Sur le spectre d'être artiste de 0 à 10 et 10 étant cet homme-là, moi, je me trouve à moins 2 en termes de talent artistique. Nul! Complètement. Vous ne verrez jamais en train d'admirer une toile. Non. Ni de faire un beau dessin sans que ça soit copié. Ça arrivera juste pas. Je suis pas capable d'apprendre un instrument, les notes, etc. Aucune capacité naturelle en dedans de moi. Artiste même, je dois vous dire que des fois, j'avais de la misère à comprendre les artistes. Ah, les artistes. Ces gens imaginatifs, sensibles, capables de créer des choses. Pour moi, c'était des bébites spéciales. Et je vous aime, les artistes, comprenez-moi bien, là. C'est juste que je suis tellement pas dans le spectre de compréhension, puis vous me regardez de la même façon. Mais avec les années, le Seigneur me travaillait à apprendre à apprécier, à connaître et maintenant admirer. Et que j'aimerais ça avoir le don de pouvoir jouer de la guitare comme Will. Ah! Il peut jouer 5 instruments, notre Will Pugh qui vient la semaine prochaine. Je le connais depuis 30 ans. On est allé à l'école biblique ensemble 3 ans dans la même classe, moi puis Will. Et je regardais jouer à l'école biblique, puis « Ah, wow! » Ça me semble, c'est tellement cool. C'est quelqu'un qui joue de la guitare, qui chante en même temps. Pas pour moi. Même pas proche. Mais le Seigneur m'a donné de diriger la louange pendant 20 ans. Et là, j'ai travaillé avec des gens doués de musique. Et là, j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et quelle humilité ils ont eu de travailler avec moi, l'inculte de la musique, et de me tolérer et de me faire paraître bien en dirigeant la louange. Mais j'ai appris tellement des artistes. Mais moi, là, je suis complètement à l'autre bout de l'artisanat, de n'importe quoi comme ça. Okay, là? L'incompréhension totale. Et Dieu prend cette personne que je ne connais pas pantoute. Il dit, lui, il a un job spécial que j'ai donné, un don particulier. Puis son don, je l'appelle à une tâche unique pour construire dans mon temple des choses que personne d'autre va pouvoir faire et que tout le monde va profiter en voyant cette chose-là qui va faire penser à Dieu, qui va nous pointer vers quelque chose. Et il y en avait du travail artisanal dans ce tabernacle, cette tente de la rencontre. Lisez le livre de Exode et vous allez voir, il y a de la job là, mais pas à peu près, il y en a des heures de travail. Et qui viendra éventuellement, 400 ans plus tard, à avoir un temple. Et ces gens-là sont choisis. Il dit, j'appelle, comme j'ai appelé Moïse, comme j'ai appelé Aaron, comme j'ai appelé Josué, j'appelle cet homme-là, je l'ai choisi. Et là, tout à coup, on réalise, OK, le choix de Dieu, c'est pas juste pour ceux qui ont des jobs spirituels. C'est pour toute tâche. Est-ce que tu réalises ce matin que Dieu te choisit pour être son enfant, que Dieu te choisit avec des dons et des talents qu'il te donne, que Dieu te choisit pour œuvrer à un endroit, que Dieu te choisit, que tu es retraité, d'être un retraité pour sa gloire, de travailler dans ce bureau avec ton administration, d'être cette secrétaire, d'être ce gestionnaire, d'être ce caissier, d'être celui qui forge le fer chez Marmène, peu importe où. T'as cet ouvrier qui construit, de le faire pour Dieu, que Dieu te choisit et t'a appelé à cette tâche-là, et il veut que tu le glorifies avec la même énergie que ces hommes-là ont eue pour construire de l'artisanat pour Dieu. Choisis. C'est pas juste les soi-disant tâches spirituelles. Le travail, même artisanal, des mains fait partie du plan divin que Dieu a doué des hommes et des femmes. Et le principe ici qu'on a, c'est que le travail n'est pas une conséquence du péché, mais une vocation donnée par Dieu. Et c'est la première chose que je veux qu'on retienne ici ce matin. Dieu choisit. Et notez bien cela, c'est clair dans les premiers versets. Dieu rempli de l'Esprit-Saint. Pour la première fois ici, dans la Bible, on lit qu'une personne est remplie de l'Esprit-Saint et ce n'est pas un prophète, mais un artiste. Ah, s'il y avait plus d'artistes remplis de l'Esprit-Saint. Ah! Et il y en a qui nous dirigent avec des dons extraordinaires, hein? Artistes de musique qui ont des dons, qui peuvent transporter des foules avec le don qu'ils ont de 20 000 personnes à adorer Dieu. Par leur voix, par leur amour qu'on ressent, par leur don de conduire, de travailler en équipe, d'avoir des instruments qui savent saisir le mode et travailler ensemble et conduire une foule dans la louange. Ce matin, on a été bénis, n'est-ce pas? Ce matin, on a été bénis. Et pas à peu près. Moi, il y a un bout là, que j'étais comme, quand on bénissait le Seigneur, j'étais comme, Seigneur, tu sais, je pense, tu peux venir, là, c'est le temps. Là. Tu peux venir, on est en train de te bénir. Mais ça me semble qu'il arriverait quand on est en train de le bénir comme assemblée. Là. C'était vraiment un bon temps de louange. Merci à l'équipe de louange et glorifions Dieu par une main d'applaudissement pour les dons qu'il donne à l'Église. Et quand on applaudit comme ça, est-ce qu'on est en train de glorifier les hommes? On remercie Dieu, à qui Dieu donne à ses hommes et ses femmes des capacités. Puis on dit, Seigneur, on le reconnaît, on l'apprécie, puis on veut te dire merci, on veut te donner la gloire à toi. C'est dans nos cœurs que ça se passe, si on est vraiment en train d'applaudir l'homme ou si on applaudit Dieu. Ça ne paraît pas juste dans l'applaudissement, c'est dans le cœur humain que Dieu s'est détecté cette vérité-là, n'est-ce pas? C'est pas dans l'action extérieure qui peut être interprétée de toutes sortes de façons. Et là, ici, ces hommes, cet homme est rempli du Saint-Esprit pour sa tâche. Dieu lui donne l'Esprit qui agit seul, pas seulement pour faire des miracles, pas seulement pour apporter la parole ou recevoir la parole de Dieu, pas juste pour faire des sacrifices ou recevoir une révélation de Dieu, mais aussi pour faire un travail manuel, créatif, pour honorer Dieu et pointer vers Dieu dans son travail. L'Esprit de Dieu pour le travailleur manuel. L'Esprit de Dieu pour tous les travailleurs. C'est ça que ça dit, en fin de compte. Pour peu importe ce que tu fais. C'était pour donner un cours dans un domaine dans lequel tu es bon. Fais-le rempli du Saint-Esprit avec cet amour, cette douceur, ce respect, avec cette qualité d'excellence que Dieu donne. Et le principe ici, c'est que le Saint-Esprit donne de la sagesse pratique, pas seulement spirituelle, mais de la sagesse pratique. Troisièmement, l'Esprit donne des compétences spécifiques. Il dit au verset 3, regardez bien, verset 3, J'ai entrepris de cet esprit de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages, toutes sortes de savoir-faire, de la sagesse, de l'intelligence, donc du savoir-faire, de la maîtrise d'une technique, une compétence qui est jumelée, si c'est la sagesse de Dieu, avec la crainte de Dieu. C'est-à-dire une compétence, mais avec laquelle je sers Dieu avec un grand respect de Dieu. C'est ça la sagesse. Avec intelligence, c'est-à-dire compréhension et sens du détail, une compétence et connaissance, donc une expérience qui a acquis avec les années, un savoir d'une compétence que Dieu lui a donnée, qui a pris à travers des années de temps à savoir faire ce travail et que Dieu lui donne ici de faire. C'est intéressant, ces mots et l'Esprit Saint, il y a un autre homme que quand il s'est présenté devant un grand roi un jour, on a dit de lui, est-ce que je vais trouver un autre homme rempli de l'Esprit des dieux? Et qui a sagesse et connaissance comme ça, qui est avisé. Et qui est cet homme? Joseph. Oui, Daniel aussi. Joseph. Quand il arrive devant le roi, il dit, il fait des recommandations, puis il dit, est-ce que je vais trouver quelqu'un d'autre d'aussi compétent que l'Esprit des dieux et que ses compétences d'être un homme avisé de sagesse que toi? C'est à toi que je vais donner cette tâche-là. À un prisonnier qui sort de prison pour interpréter ton rêve. Tu parles d'une drôle d'idée. Et c'est signé qui, ça? Dieu. Dieu. L'originalité complète, imprévisible, c'est signé Dieu, le Créateur. Le seul qui peut faire un scénario comme ça. Le seul. Il avait ses compétences. L'Esprit qui équipe Bezaleel pour faire son travail, pas seulement pour être spirituel ici. Et le principe, c'est que Dieu valorise la compétence autant que la piété. Être pieux, de vouloir plaire à Dieu. Mais Dieu te donne une compétence et il veut que tu le fasses aussi avec excellence. Il veut que tu le fasses d'une manière que tu te différencies des autres, pas pour que tu t'enorgueillis, mais pour que Dieu soit honoré, celui qui te donne cette compétence et que tu fais avec excellence. Peu importe ton domaine de compétence. Et vous savez, on a toutes des occasions que Dieu nous amène régulièrement dans notre travail, au bout de nos capacités. Vous avez tous déjà été dans votre capacité devant une job, tu sais, que tu n'as jamais fait ça. Devant une personne avec un caractère, je ne sais pas comment travailler avec cette personne-là. Devant une situation au travail, que tu as des compétences, mais là, c'est en dehors de ton champ de compétences. Puis là, je vais-tu dire, je ne le sais pas, ou je vais le prendre, puis comme, ou je vais te dire, Seigneur, si tu m'amènes cette opportunité-là, peux-tu m'aider, s'il vous plaît? Peux-tu me rendre capable, avec tout ce que tu m'as donné comme bagage, de remplir cette tâche-là? Si tu me l'amènes à moi, certainement que tu m'as donné les capacités pour être capable de le réaliser. Et c'est bon d'être devant des situations qui nous sortent de notre zone de confort et nous amènent à dépendre de Dieu puis demander l'aide de Dieu dans ton travail. Je me rappelle mon premier funérail, j'étais stressé. Personne ne m'avait dit comment faire le funérail. J'avais 24 ans et là, M. Estelle, son papa, si je ne me trompe pas, qui était décédé. Et là, en plus, il était catholique. On m'a demandé de prendre la parole dans une église catholique. C'était encore plus inconfortable qu'aujourd'hui en 1999-2000. Et là, j'étais à Montréal, je ne connaissais pas la famille, mais la famille Estelle me demandait de faire ce funérail parce qu'on avait un lien spécial et j'étais pasteur à leur église et c'était son papa. Hey, je ne me sentais pas gros, là. Je ne me sentais pas fierpette ni pépin, là. Hey, le Seigneur, OK, là, comment j'organisais ça? Qu'est-ce que je vais dire? Comment j'en aurais dû? Comment j'ai amené l'Évangile respectueusement? Puis, etc. Mais Dieu me donnait les capacités. Mais au moment voulu, je ne me sentais pas adéquat. Dieu m'avait appelé, mais j'étais devant une nouveauté. Puis j'avais personne pour tenir la main. Là. Monsieur Keefe, qui était mon mentor, avait quitté dans une autre église. Puis là, j'étais tout seul dans cette église, 140 personnes. Puis j'avais 24 ans. Je faisais probablement encore de l'acné, tu sais. C'est pas rassurant, là. Mais c'était comme ça. Et qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Seigneur, aide-moi. Et par la grâce de Dieu, ça a bien été. Julie a chanté, si je ne me trompe pas. Puis j'ai apporté la parole. On a travaillé en équipe. Et on a pu servir la famille Estelle. Il était content, en tout cas. Je ne sais pas si je serais content de me réécouter, mais c'est autre chose. Ça, c'est l'orgueil humain. Je ne prendrai pas de chance, effectivement. Merci, Louise. Mais vous en avez des occasions comme ça où vous vous sentez dépassé. C'est une bonne chose de régulièrement être inconfortable, d'avoir une job qui te semble, hey, un collègue de travail qui est en dehors de tes normes. J'ai jamais travaillé avec quelqu'un comme ça. Comment je travaille avec ça, là, tu sais, là? C'est correct d'avoir un défi financier pour monter ton projet. Seigneur, aide-moi. Il nous faut des situations inconfortables. Dieu veut me rencontrer dans les choses inconfortables et me faire grandir dans mon travail avec lui. Et me faire maturer. Et le lieu de travail est une maison de formation essentielle pour chacun d'entre nous. Et il faut l'apprécier à sa juste valeur. Dieu veut me former là, c'est correct. Accueillons les difficultés au lieu de chialer de ces choses-là et d'accueillir l'aide de Dieu et de supplier. Lorsque Dieu nous appelle à accomplir une tâche, il nous équipe également pour ça. Lorsqu'il charge Bezalel de travailler le tabernacle, il était déjà un homme qualifié dans sa tâche. Mais Dieu l'a encore qualifié une coche de plus par l'Esprit-Saint de sagesse et d'intelligence pour une tâche spécifique. Vous savez, le nom de Bezalel, c'est intéressant. Ça veut dire « dans l'ombre de Dieu ». Son nom est composé comme ça, « dans l'ombre de Dieu ». Tout comprimé ensemble en un seul nom. « Dans l'ombre de Dieu ». Tu parles d'un nom, ça. Ça devait être des parents qui l'aimaient, qui ont pensé à ça. « Dans l'ombre de Dieu ». On est dans l'ombre de Dieu. C'est ça ma sécurité. C'est-à-dire que je suis son aile protectrice. Son nom me lance un signal ici sur le travailleur. Je suis chacun d'entre nous dans l'ombre de Dieu. À travailler dans son ombre, il me protège et il veut m'amener à travers ses défis, à relever les défis. Vous savez, les talents et compétences que Dieu nous donne, il veut qu'on l'honore, peu importe le domaine. Il y a un grand pianiste, mais surtout un grand accordeur de piano. Je me rappelle encore Tiga à Chugamo, on avait un accordeur de piano qui venait accorder notre piano à Chouyamou. Puis quand il venait, on était toujours impressionnés. C'est un monsieur assez âgé. Et là, il nous faisait une pièce. On était tous... Il avait passé une demi-heure, une heure à jouer avec les notes. Aucune idée s'il était bon ou pas bon. Il faisait ce qu'il avait à faire. T'sais. Mais quand il jouait, et qu'il jouait bien, on était impressionnés à la maison. Là. L'accordeur venait en ville. On parle des années 80. Là. Puis il n'y en avait pas 50 qui venaient à Chouyamou. Mais là, celui-ci était tellement bon. Il s'appelle Franz Moitz. Alors, je ne sais pas, je le dis comme faux, c'est un Norvégien, mais qui a vécu à New York. Tous les grands pianistes, il est mort en 2022, tous les grands pianistes invitaient Franz et voulaient s'assurer, c'était à travers une firme à New York, les plus grands pianistes, qu'ils soient Caliburn ou bien Horwitz, ils invitaient puis ils voulaient être sûrs que c'était le meilleur accordeur qui était là. Et il disait ceci, il considérait que ses compétences étaient le moyen de servir Dieu. Il partageait régulièrement sa foi avec les pianistes et les personnes de la scène. Et comment est-ce qu'il était entendu? Parce qu'il avait une réputation pour son excellence, par le don que Dieu lui avait donné. Et son excellence amenait du respect aux grands pianistes, parce que je peux être un grand pianiste, mais si je n'ai pas un bon accordeur que je respecte puis que je sais qu'il fait une bonne job, je ne ferai pas une bonne job de pianiste. Il va avoir une fausse note, ça va mettre tout le monde mal à l'aise. Tu ne veux pas avoir ça dans un grand hall de 3000 personnes. Qui a juste un instrument qui joue, qui doit être parfait. Tu vas avoir Franz. Et là, si Franz, tout à coup, que tu respectes, te parle de Dieu, tout à coup, tu l'écoutes. Que tu aimes ou pas Dieu, que tu sois intéressé ou pas, parce que Franz, tu le respectes. Vous comprenez? Et ça peut être dans n'importe quel domaine de compétence. Que nous considérions ici que nous sommes aussi importants que ces artistes n'ont aucune importance. Dieu nous amène chacun d'entre nous avec le don unique à l'utiliser pour servir les uns les autres, comme Romains chapitre 12, verset 6 nous dit. On est appelé à servir les uns les autres dans l'Église et à l'extérieur de l'Église, et dans ton quartier, dans ta famille, dans ton travail, les uns les autres avec ta compétence que Dieu te donne. Quatrièmement, le travail est créatif, à l'image du Créateur. Il dit « pour concevoir des dessins ». Littéralement, on pourrait le traduire de deux, trois différentes manières, parce que c'est deux fois le même mot, un en verbe et un l'autre en nom. On pourrait dire « pour penser des pensées » ou « pour projeter des projets ». Ou on peut dire tout simplement ici « pour concevoir des dessins ». C'est deux mots différents, mais c'est la même racine. C'est une redondance ici pour marquer en hébreu, faire un punch ici, pour travailler l'art, etc. Et Dieu donne à cet homme la capacité d'imaginer, la capacité de créer pour le but de refléter dans son travail la gloire de Dieu, reflétée, pointée vers Dieu dans ce qu'il allait faire comme artisanal dans le tabernacle. Le travail n'est pas seulement utilitaire, il peut être beau et significatif pour Dieu. Cet homme et son assistant participent à une œuvre artistique de Dieu qui va donner les plans, mais dont il faut le concevoir selon les plans. Pour construire cet endroit, ce tabernacle, ce lieu de demeure de Dieu sur terre. Et ici, le principe, c'est travailler avec créativité et beauté pour honorer Dieu. Au 12e siècle, l'artiste chinois Li Tang peignait des paysages animés par des personnages, des oiseaux et des buffles d'eau. Grâce à son génie pour des dessins en très fin sur la soie. Li Tang est considéré comme le maître d'art paysager chez les Chinois. Depuis des siècles, les artistes du monde entier présentent ce qu'ils voient dans les galeries d'art de la création de Dieu. Souvent des paysages de toutes sortes, n'est-ce pas, qui inspirent ces grands tableaux. Vous savez, la Bible dit « Les cieux proclament la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains, de ce que fait lui-même avec ses mains Dieu ». Et la Bible nous dit que notre créativité en tant qu'être humain vient du fait que nous sommes créés à l'image du Maître créateur. On est créé à son image, nous dit Genèse chapitre 1. Et c'est ce qui nous donne cette capacité. Dieu a choisi des artistes qui travaillent le bois, l'or, l'argent, les tableaux, le bronze, le bois, toutes sortes d'ustensiles, etc. dans le tabernacle pour offrir une adoration à Dieu. Et ces représentations artistiques de réalités spirituelles ont incité et guidé les prêtres et le peuple à adorer le Seigneur qui les avait appelés à être son peuple. Nous avons été créés, vous savez, pour rendre gloire à Dieu, créés à son image et donc capables de créer des choses pour le glorifier parce qu'on est créé à son image. Dites-le, je suis créé à son image. Je suis créé à son image. Ça fait de toi quelqu'un extrêmement spécial. Et là, si en plus tu deviens son enfant, tu reconnais. Parce que vous savez, même si tu n'es pas chrétien ce matin, tu es créé à son image, que tu le veuilles ou pas. Puis que tu le reconnaisses ou pas, même si tu n'es pas chrétien ce matin, les dons que tu as reçus, ce n'est pas toi qui les mérites, c'est Dieu qui les a donnés. Et il veut que tu l'honores, que tu sois chrétien ou pas. Que quand tu peins un tableau, quand tu fais une œuvre de sculptage dans du bois pour le plaisir, quand tu fais un beau travail autour de ta cheminée de rénovation, que tu fais quelque chose de beau, il veut que tu le glorifies par ton don. Laisse-toi savoir si tu le fais intentionnellement pour lui ou tu vas te glorifier toi. Si tu te glorifies toi, tu vas te détruire dans ton orgueil parce que Dieu détruit l'orgueil humain. Cette semaine, je lisais dans le livre de Ésaïe, dans ma lecture personnelle, et j'ai été flabbergasté, j'ai été rentré dedans vraiment, là, puissamment, par le mot que Dieu donne sur l'orgueil au chapitre 2. C'est quelque chose. Les différents mots utilisés, que l'auteur utilise pour parler de tout ce qui est élevé. Il dit « Je serai élevé en ce temps-là, mais tout ce qui est élevé sera détruit. » Et il répète « Les bateaux, si ça sera détruit, ça sera, ce qui est élevé va être abaissé. » Il utilise différents mots pour dire la même chose, mais il dit « Tout ce qui est élevé, ça va tout partir un jour. » Puis il répète comme un refrain. « Le Très-Haut, lui, sera élevé. Le Très-Haut, lui, sera élevé. » Alors, veux-tu y participer maintenant ou je veux m'en rendre compte plus tard puis que moi, je suis abaissé? C'est le jour aujourd'hui de répondre avant que Dieu abaisse. De dire « Je suis un fils du Créateur, créé à son image. Je suis une fille du Créateur, créée à son image. Et soit que je le glorifie dans ma vie ou je ne le glorifie pas, et un jour je serai abaissé si je ne l'honore pas, celui qui m'a créé. » C'est un choix que chaque créature doit faire sur sa vie sur terre. Peu importe le nombre de temps. Et le temps avance, les amis. Le temps avance. C'est aussi un travail qui est collaboratif. Alors, tout de suite, on donne ici un assistant au Holiab, dans lequel il dit, « Dans l'esprit de tout homme habile, j'ai mis l'habilité. » Littéralement, en hébreu, c'est drôle comment c'est écrit, mais il dit, « Dans le cœur de toute sagesse, de cœur, j'ai donné de la sagesse. » Et c'est une phrase difficile à traduire, l'idée qu'on faut, mais on l'a traduit de cette façon-là. « Dans l'esprit de tout homme habile, j'ai mis l'habilité. » C'est-à-dire que tout ce que, des habilités que j'ai données, dans un cœur humain, dans la capacité, ses pensées, Le siège de sa volonté vient de celui qui donne les habilités. Dieu associe ici maintenant Betsalel, un homme de la tribu de Juda, avec un homme d'une autre tribu, la tribu de Dan. Et ce qu'il devrait dire ici, c'est que j'utilise des gens pour travailler ensemble, ils ne sont pas tous de la même famille. Des gens de différentes tribus, de différentes instructions, des gens de différentes cultures, des gens de différents niveaux sociaux, selon les standards humains, que je mets ensemble pour travailler. N'est-ce pas ce que c'est l'Église? Hein? Des gens appelés de différentes langues, de différentes nations, de différentes cultures, de différentes manières de faire les choses, ensemble par l'Esprit Saint pour travailler ensemble collectivement sous le Créateur qui nous unit, sous l'appel du Créateur qui a envoyé son Fils Jésus pour amener le pardon de nos péchés. Et tout à coup, on transcende ma culture, ma langue, mes préférences et ces hommeries-là. Et tout à coup, l'Esprit de Dieu unit et amène un travail collaboratif ensemble. Pas juste moi et ce que moi je veux faire. Faisons ensemble. Mais comment c'était beau la chorale? Parce que c'était des gens de 4-5 différentes nations avec des multitudes d'expériences, d'âge, hommes et femmes ensemble qui prennent des chants et nous conduisent dans la louange ensemble. Un reflet de qui eux sont également. Un travail collaboratif. Et on le voit déjà ici, il donne un assistant pour l'aider. Il a besoin d'aide. Il ne peut pas tout faire ça tout seul. C'est trop pour un homme. C'est trop pour toi. Tu as besoin d'aide, toi aussi, en passant. Demande de l'aide. On a tous besoin d'aide d'un moment ou un autre. Pour un conseil, pour lever quelque chose à deux parce qu'à un, tu risques de te faire mal au dos. Pour une compétence, pour un conseil, pour mieux faire quelque chose. Combien de fois j'ai demandé des conseils pour éviter de mal vous servir? J'en ai tellement besoin de conseils qui m'ont sorti du pétrin, qui m'ont sauvé des fautes. J'ai besoin d'aide continuellement. On a tous besoin d'aide. Et Dieu nous invite à un travail humble, collaboratif pour le glorifier. Le travail, selon Dieu, unit des personnes différentes autour d'un même but, dans un complémentarisme. Et le principe ici, c'est que le travail inspiré par Dieu favorise l'unité et la complémentarité. Ah, mais il ne pense pas comme moi. C'est pas grave. Il y a quelque chose qu'il va apporter qui est bon pour toi. Il ne faut pas tout penser comme toi. Le monde n'irait pas bien si tout le monde pensait comme toi. Il faut se le dire, ça. Une chance que le monde ne fonctionne pas comme Joël Lapierre, on serait tous perdus. Et comme toi aussi. Dieu nous met ensemble. On n'a pas toutes pour faire le travail. Et c'est typiquement des situations que Dieu nous donne avec des gens qui ont un appel particulier. J'ai eu une belle histoire cet été. J'ai rencontré Jonathan Dilgat, un gars qui était aux études ici pendant des années. Il était à l'église de la Pentecôte et il était à Chugamo, commencé à l'église Baptiste. Maintenant, il est rendu à Saint-Prime, le village où mon père a grandi, mais où mon arrière-arrière-grand-père a fondé dans les années 1800. Il n'y a jamais eu d'église là à Saint-Prime. Mais Jonathan Dilgat cherchait un travail, il avait un bon travail, et finalement, pour une raison qui n'est pas expliquée, il s'est fait mettre dehors. Et là, il me raconte cet été qu'il avait été mis dehors, et que finalement, il s'est ramassé une semaine après avoir déjà une entrevue, dans un CIUS, et là, le directeur général l'a rencontré, et tout à coup, c'était la job pour lui, qui lui permettait de vivre à Saint-Prime, et le DG, ça faisait 11 mois qu'il priait pour un comptable comme lui. 11 mois qu'il n'y avait pas personne qui était qualifié qui venait, puis il cherchait. Et c'est un chrétien que je connais. Et dont un des fils a accepté le Seigneur la semaine passée au camp Patmos. Amen? Dans la vingtaine, il a accepté le Seigneur après des années, quelques années d'errance. Et là, son père priait pour ça de 11 mois. Et quand il a vu Jonathan rentrer, il savait au bout de quelques temps que c'était un chrétien. Il n'a rien dit. Il l'a engagé. Et plus tard, il est allé le voir. Il a expliqué, ça fait 11 mois que je prie pour toi. Je suis un chrétien comme toi. Mais lui, il était atterré. Seigneur, il avait enlevé une job. Ça s'appelait une injustice. Mais Dieu voulait le garder à Saint-Prime. Et maintenant, à Saint-Prime, il y a une église internationale d'une quarantaine de personnes qui se réunit dans le petit village, une église évangélique en 2025. Pas merveilleux, ça? Ça, c'est le Seigneur qui permet d'amener les joueurs au bon moment, les réponses et les prières répondues au bon moment. Il faut parfois être patient. Tu ne l'as pas tout de suite. Et Dieu travaille dans le facteur temps que nous, on trouve difficile, que c'est lent. Mais Dieu travaille dans la lenteur parce que Dieu sait que ta croissance puis ma croissance, c'est lent en bébite des fois. Hein? Une chance qu'il est patient. Avec moi, comme avec les autres aussi. Dieu travaille comme ça et amène à travers d'autres personnes à combler nos besoins. Et dans l'Église, c'est comme ça aussi. Vous avez une tâche. Le Seigneur veut combler les besoins de l'Église par tous et chacun ici. Pas juste ceux qui ont le goût. Le Seigneur veut t'appeler toi. Toi. À servir. Où est-ce que tu ne veux ici? Est-ce que tu m'appelles à m'asseoir ici puis juste recevoir semaine après semaine? Ou tu m'as donné des qualités, des capacités puis tu veux que je te serve? Où tu veux que je te serve, Seigneur? C'est correct recevoir, mais tu m'invites à recevoir et à donner, à faire partie de la collectivité. Pas juste m'asseoir pour recevoir. Il y a un temps pour ça. Il y a un temps pour se lever. Il y a un temps pour s'adapter avec nos capacités physiques. Il y a un temps pour plus prier que de bouger. Chacun à son étape. Mais on est tous appelés collectivement à participer au royaume et avec la place et les talents que Dieu me donne. Et finalement ici, le travail est une finalité, à une finalité spirituelle. Pour qu'ils fassent ce que j'ai ordonné, il dit. Leur travail a un but consacré, construire un lieu pour la présence de Dieu. Le travail devient une adoration quand il obéit à Dieu et qu'il sert ses desseins. Et le travail devient un culte quand il est fait pour Dieu et selon sa volonté à lui. La question ce matin, c'est bien beau, mais le danger, c'est que je me pose cette question-ci. Mais peut-être, c'est parce que lui, c'est un artiste appelé à avoir un rôle dans le temple de Dieu, mais ce n'est pas pour tout le monde, ça. Fait qu'il a reçu des compétences, puis l'esprit, parce que lui est appelé à faire son œuvre de service, mais dans le temple. Sinon, ce n'est pas pareil pour moi, ma job à moi, conduire l'autobus, d'enseigner dans les classes. Ce n'est pas pareil pour moi, tu sais, dans mon travail de secrétariat, dans mon travail de gérant d'un restaurant. Ce serait ça le danger? Est-ce que c'est une question, une réflexion qui est légitime? Est-ce que c'est vrai, ça? Et je la pose parce que certainement, certains vont être tentés par ce mensonge-là, de faire une distinction. Et dans un certain contexte, on pourrait dire oui, historiquement et contextuellement, il y avait une onction spéciale pour une tâche spéciale à ce moment-là. Mais les principes du Nouveau Testament nous instruisent à savoir que cet appel-là qu'il a reçu n'est pas seulement pour un travail spirituel qu'on appelle dans une tâche comme ça spécifique pour le temple de Dieu, mais de montrer que Dieu est sanctifié dans le travail humain partout. Et on aura un texte la semaine prochaine qui nous invite justement dans ce sens-là, qu'on va regarder dans Colossiens avec le pasteur Tony. Et que le Saint-Esprit aussi nous donne des dons, des talents, des capacités pour forger, sculpter, diriger, conduire, assembler, coudre, peu importe la tâche manuelle que Dieu nous appelle à faire. Même si le contexte est religieux, le type de travail que Dieu bénit ici, il est technique, il est artistique, il est manuel. Pas dans le culte ni le sacerdoce. Le texte révèle un principe plus large que Dieu est le Seigneur de toute forme de travail. Et c'est dans Genèse chapitre 2 que tout ça est clair. Il nous a appelés à servir. C'est intéressant parce que dans le chapitre suivant, chapitre 32, on le connaît bien, le chapitre 32, et je vous lirai pas, mais vous pouvez regarder. C'est là que, pendant qu'il est en train de recevoir cette information au chapitre 1 de la part du Seigneur, il y a un peuple en bas qui n'ont pas vu leur leader pendant des semaines. Et vous rappelez ce qu'ils font? Ils commencent à faire des niaiseries. Au lieu d'avoir un homme choisi, le peuple choisit un homme qui s'appelle Aaron, à l'absence de son. Et son peuple décide de faire un travail que Dieu n'a pas ordonné, construire un veau d'or. Et qu'est-ce qu'on a comme résultat quand on décide de travailler dans notre chair, de s'appeler soi-même? On a des gros problèmes dans le chapitre 32. Quel contraste entre Dieu qui appelle et Dieu qui équipe, et le chapitre 32, l'homme qui appelle et l'homme qui se donne des directives lui-même et qui désobéit Dieu. Et on a un choix à faire, c'est ça que ça veut dire. J'ai un choix à faire d'accepter l'appel de Dieu. J'ai un choix à faire de me coller à lui pour connaître sa direction. Sinon, je peux me mettre dans le pétrin et avoir un appel charnel. Et quel contraste entre les deux chapitres de ce que Dieu a donné puis le résultat de ceux qui se sont appelés, qui se sont donné leurs propres outils à eux-mêmes, bon, faire mon travail, ce que moi je veux faire, et finalement qui ont désobéi Dieu et qui se sont amenés tellement de dommages. Dieu peut inspirer, il peut guider, il peut habiter le travail humain, même le plus ordinaire. OK? Je vous le répète. Dieu peut inspirer, guider et habiter le travail humain, même considéré par les êtres humains comme étant le travail le plus ordinaire et sans importance. Sois en train d'honorer Dieu dans ton travail ordinaire pour la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus. Honore-le là. Dieu va se glorifier dans un homme qui n'est pas supposé être en prison comme Joseph et qui va le servir avec simplicité en prison. Il s'est honoré, le Seigneur. Il a donné des opportunités en prison. Ce n'est pas là que tu cherches des opportunités en prison. On va se le dire. Personne dans sa bucket list a dit, « Seigneur, envoie-moi en prison pour que je puisse te servir en prison. » Je ne l'ai jamais vu encore. Mais Dieu l'a fait par toutes sortes de circonstances. Et Dieu peut le faire pour toutes sortes d'autres opportunités. Je vous résume ici les leçons qu'on apprend. Okay? Dieu appelle des travailleurs. Donc, ton métier, ton art, ton service sont des vocations spirituelles. Okay? Deuxièmement, il remplit de l'Esprit-Saint. Demande au Saint-Esprit de t'aider, de te remplir le matin avant d'aller au travail pour qu'il te donne de l'excellence dans ce que tu fais au travail. Pas pour que tu te glorifies, pour que tu honores ton Dieu lorsque tu travailles. Sagesse et savoir. Le savoir-faire vient aussi de Dieu. Développe tes dons avec reconnaissance. J'ajouterai ici. On est dans le mot d'action de grâce. Là. Avec reconnaissance, c'est Dieu qui me rend capable. À chaque fois, j'ai des compliments. Oui, c'est vrai. Je suis reconnaissant, mais c'est Dieu qui me rend capable de faire ça. Sinon, c'est l'orgueil qui embarque. Automatiquement, on est comme ça. Créativité. Créer, inventer, organiser, bâtir. Tout cela reflète l'image du Créateur. Et une opportunité de l'honorer. Collaboration. Chercher la complémentarité plutôt que la compétitivité au travail. Et dans mon service à l'Église. Complémentarité. Il ne fait pas comme je veux, il n'est pas, va l'aider s'il n'est pas bon, s'il n'est pas bonne, au lieu de le chialer après. Va y montrer patiemment, dis une fois, deux fois, trois fois, Dieu, il fait ça avec toi, tu sais, mon ami. Il me donne une chance, deux chances, trois chances, puis il ne fait pas quatre out, ce n'est pas le baseball, là. Sinon, on serait tout fini. On serait tout fini si c'était le baseball. Dieu n'est pas comme ça. Merci, Seigneur. Alors, offrons-le aux autres aussi, parce que moi, j'en ai besoin. De ne pas être dehors après quatre coups. Finalement, finalité spirituelle. Travailler non pour plaire aux hommes, mais pour honorer Dieu. Et ça, on va en développer la semaine prochaine en particulier. Je vais faire un exercice. Alors, on aurait pu parler de Joseph, mais je ne développerai pas ça ce matin. Je vous invite à faire l'exercice. Regardez Joseph et comment Dieu l'accompagne dans son travail. De manière inusitée, il y a tellement de leçons à tirer, à étudier Joseph comme employé face à l'employeur, face aux injustices au travail, face aux calomnies. Être fidèle quand on ne regarde pas, viser l'excellence, la moralité au travail devant les tentations. Il y a plein de leçons intéressantes là, à étudier comme travailleur. Seigneur, montre-moi des choses que j'ai besoin dans cette histoire-là pour m'aider. Mais vous savez, le travailleur parfait, c'est Jésus. J'aimerais vous donner ici une définition que Pasteur Tony va développer la semaine prochaine, je vais juste vous la donner cette semaine. Définition du travail. Écoutez bien ceci, je vais le répéter. Tout travail consiste à se sacrifier, donc en temps, en talent, en effort, pour ajouter de la valeur à la vie d'autres personnes. Je le répète. Tout travail consiste à se sacrifier, c'est par du jus de bras de nous autres, en temps, en talent, en effort, qui a pour but d'ajouter de la valeur à quelque chose pour quelqu'un. Par un matériel, par un service, peu importe. Et Jésus est le travailleur parfait. Avant son ministère public, Jésus est un charpentier. Jésus, pendant des années, exerce un métier qu'il a appris de son propre père. Et il sanctifie par son travail sur terre, tout comme pour le mariage, par sa présence au mariage, il sanctifie le travailleur, étant été lui-même un travailleur fidèle. Dans un travail manuel, peut-être considéré ordinaire. Il fait son travail pour la gloire du Père céleste et lui parle continuellement de vouloir savoir qu'est-ce qu'il veut et l'honorer, non pour la reconnaissance humaine. En lui, nous voyons le travail peut devenir et redevenir un acte d'amour et de foi et non simplement un simple moyen pour survivre. Je le fais parce que je suis obligé. Il faut qu'on survive. Ah, c'est décourageant si c'est juste pour que tu survives. Tu vas le faire longtemps juste pour survivre si tu n'aimes pas ça. Mais le Seigneur peut te renouveler ta vision aujourd'hui. Je me pose une question ce matin. Et si Jésus était ton mécanicien, à quoi ça ressemblerait? Ça fait deux fois que je perds mes mécaniciens pour la retraite. Je viens de le perdre récemment. Celui que j'ai perdu avant ça, c'était M. Clément, qui était mon mécanicien pendant des années. Un bon mécanicien, c'est important. Un docteur de ton auto, là, tu veux qu'il te conseille comme vous parce que tu peux en passer des heures et de l'argent dans un auto. Amen. Merci Seigneur pour un bon mécanicien. Pas toujours facile à trouver. Là, je ne m'en prends pas au mécanicien ici, là. Mais si Jésus était ton mécanicien, comment il serait? Jésus, s'il était ton mécanicien. Une suggestion? Il serait honnête, Jésus. Et qu'on veut un mécanicien honnête. Amen. Qui donne les vraies heures, hein? Qui fait la bonne suggestion sur cette pièce-là ou pas à changer. Quoi d'autre qui serait si Jésus était ton mécanicien? Comment? Consciencieux. Excellent. Quoi d'autre? Compétent. Ben oui, on espère qu'il a fait son cours et qu'il a des expériences assez variées pour toucher à ton char. Hein? Quoi d'autre? Disponible. Ah oui, c'est vrai, un mécanicien. Écoute, un bon mécanicien, en plus, il est occupé. Ben, on veut que ça soit disponible. Jésus, il a l'avantage de pouvoir faire 2-3 chars en même temps. Mais bon, on n'en parle pas, là, mais ça, on ne peut pas le faire, nous autres. Hein? Quoi d'autre? Comment? Pas cher. Hein? Moi, on veut qu'il vive aussi. On ne voudrait pas abuser de Jésus. On voudrait avoir le juste prix. C'est ça, hein? Le juste prix, qui n'est pas en train de s'enrichir abusivement, mais qu'on n'est pas en train de le garder pauvre avec sa famille et ses enfants. Le juste prix. On veut ça, le juste prix, parce qu'on veut qu'il vive de son métier. Quoi d'autre? Comment? Alors, quand il fait la réparation de mon char, qu'il vise ma sécurité, effectivement. Moi, j'ajouterais, j'aimerais ça qu'il n'oublie pas de mettre, après avoir mis l'huile, de mettre le cap comme il faut. Ça m'est arrivé un kilomètre plus tard qu'il avait oublié puis que j'ai vidé mon huile dans la rue. Hein? Quoi d'autre? Un bon conseiller. Oui, parce qu'il y a plein de décisions à prendre, n'est-ce pas? Derrière? Un bon diagnostic, parce qu'il y a plein de diagnostics. C'est comme un docteur pour ton corps. Hein? Un char, c'est complexe, puis des fois, tu as des faux positifs, puis etc. Là, tu veux être sûr de ton affaire. Il serait humble. Oh, j'aime ça. Là, on parle d'attitude. Mais là, ton char, là, on a tous déjà vu quelqu'un qui est un peu prétentieux, qui te fait sentir comme un idiot ou un idiote. Ben oui, face à mon char, je suis un peu niaiseux. C'est pour ça que je viens te voir. Je veux quelqu'un de compétent. Mais il y aurait une attitude humble, il ne me ferait pas sentir comme un imbécile parce que je ne sais pas, parce que je vais voir sa compétence. Oui, madame. Il connaît ses limites. Ça va avec l'humilité aussi, hein? Écoute, ça, je ne peux pas faire ce job-là. Je t'enverrai vers lui, il est bon là-dedans. Hey! Ça, c'est rassurant, une bonne référence, n'est-ce pas? On aime ça. Oui. Loyal. Loyal. C'est dur, hein? Loyauté. Un autre trait? Y a-tu un bon ami mécanicien qui peut demander conseil quand il est dans un job qui est aux limites de ses capacités? Hey, ça, on apprécie ça. Ça va avec l'humilité, hein? Hey, cette attitude-là, humble et doux. Voyez-tu ce qu'on a entendu ici? Accueillant. Des belles capacités relationnelles, hein? On aime ça quand on peut jaser avec le mécanicien qui est friendly. Moi, le mien est comme ça. On jase à chaque fois. Il a pris sa retraite tout récemment, mais on s'appelle depuis encore. Puis on est supposé de continuer à nager ensemble avec mon mécanicien. Parce que là, il a pris sa retraite, il a plus de temps. Mais on veut de la relation avec, hein? On veut pouvoir jaser avec lui, prendre des nouvelles. Quand il y a une belle attitude relationnelle, et que c'est le fun, hein? C'est encore plus satisfaisant, lui, le mécanicien, quand tu as une relation avec le mécanicien. Mais vous comprenez ici ce qu'on est en train de dire, là? Mais tout ça, là, par la grâce de Dieu, avec l'aide de Jésus, on est appelé à être comme Jésus dans notre milieu de travail. Toutes ces belles qualités qu'on aimerait avoir, pour être servi. Que le Seigneur nous accorde, Seigneur, je veux ces qualités-là de Jésus, que je pense que s'il était mon mécanicien, il ferait ça. Seigneur, donne-moi-la, que j'aie cette humilité, que j'aie ces compétences, capable de demander conseil pour Jésus, pour l'honorer. Amen! On est tous dans le même bateau, appelés comme pasteurs, comme travailleurs de n'importe quel métier. On a tous le même appel de servir Dieu de cette façon-là, responsable. Voici ce que l'Évangile nous dit. À la création, Dieu a créé le travail. C'est un mandat divin et joyeux. C'est une bonne chose. Le problème, c'est qu'à la chute, le travail, c'est encore une bonne chose, mais il est devenu difficile à cause du péché. Là, je sue. Là, je n'ai pas toujours proportionnellement à l'effort que j'ai donné. Des fois, j'ai plus, des fois, j'ai moins. Je suis pogné avec la température. Je suis limité par le fait qu'il y a des mauvaises herbes qui veulent pousser. Ce n'est pas comme ça au début. Le péché a amené que c'est tough, le travail. La bonne nouvelle, c'est que la rédemption, le pardon de Jésus, Jésus rétablit le sens du travail. Il me rappelle que je suis pour là pour le servir. C'est correct de travailler. Je n'ai plus besoin de maudire mon employeur, puis de maudire mon travail, puis de me lever découragé, puis de déprimer le matin. Parce qu'en me sauvant, le Seigneur me redonne le pourquoi. Et il transforme nos motivations et notre joie. Pourquoi? Parce qu'il amène de la restauration après la rédemption. Après avoir été sauvé, il amène une restauration. Tout à coup, le travail sera un endroit parfait pour grandir dans le royaume puis honorer Dieu pour le servir. C'est un endroit que Dieu se glorifie à travers nos œuvres et qui me travaille, me transforme. Il restaure ce qui était brisé par la rédemption de Jésus et il amène maintenant tout à coup que je peux redécouvrir de la joie au travail que j'avais perdu à cause du péché. Amen. Est-ce que tu l'as ça ce matin? La joie de ton travail. Merci Seigneur pour mon travail. Continue à me transformer. Aide-moi pour tel défi au travail, Seigneur. L'idée clé ici ce matin de notre enseignement, c'est que Jésus n'est pas seulement venu pour te sauver et que tu aies un beau dimanche matin. Ce n'est pas ça le but. Mais c'est venu pour te racheter le lundi de travail jusqu'au vendredi. Et le samedi si tu travailles la fin de semaine. Puis quand tu es pogné des chiffres de fin de semaine. Jésus ne fait pas que pardonner nos fautes. Il répare le monde brisé par le péché et il rétablit notre vocation, notre appel à l'adorer dans notre lieu de travail et qu'il devienne utile et bénissant. Et on dit dans 1 Jean chapitre 3, le Fils de Dieu fut manifesté afin de détruire ou de nous délier des œuvres du diable, des œuvres de notre chair, des œuvres du monde. Je termine avec cette diapo. Dieu veut donc travailler sur moi en travaillant avec moi au travail. Est-ce que Dieu est avec toi au travail? Pour qui est-ce que je travaille? Tu travailles-tu pour ton employeur ou est-ce que tu travailles pour Dieu? Tu travailles-tu pour toi parce que tu es ton employeur ou pour Dieu? Ça fait toute la différence dans pourquoi tu fais ce que tu fais. Le Dieu qui a rempli ses artisans de son esprit. Je vais inviter ici ceux qui font la louange à s'approcher pour terminer avec le dernier chant. Le Dieu qui a rempli ses artisans de son esprit pour bâtir un sanctuaire est le même qui remplit aujourd'hui ses enfants pour bâtir sa gloire dans leur bureau, atelier, école, famille, etc. Le tabernacle n'existe plus, oui. Mais le monde est maintenant le lieu où ce que Dieu veut manifester sa présence partout, dans tous les lieux de travail, à travers ses fidèles, et qu'il veut inspirer les gens à se tourner vers celui qui les a créés. Est-ce qu'on le croit ce matin? Est-ce qu'on le croit vraiment ce matin? Et est-ce qu'on veut redonner à Dieu la place qu'il mérite dans mon milieu de travail? Prions le Seigneur ce matin ensemble en réponse à ce que la parole de Dieu nous dit ce matin. Seigneur, mon travail ce matin, je veux te le redonner. Il avait perdu de son lustre, mon travail. Je réalise ce matin que je chiale plus que je remercie. Je réalise que je chiale plus de des employés ou des gens à qui je travaille, que je peux apprécier certains collègues que tu me donnes, que j'apprécie. Seigneur, change mon attitude envers le travail. Aide-moi à voir le service que je peux faire pour toi. Redonne-moi de la joie. Redonne-moi de la perspective et une vision de pourquoi je suis là. Comme chrétien, et que je puisse redoubler d'ardeur parce que tu es avec moi au travail, que je puisse te le demander plus souvent, que je puisse t'en parler de mon état d'âme et de mes besoins au travail plus souvent parce que, Seigneur, c'est vrai qu'entre toi et moi, j'en parle pas souvent de mon travail. Je ne demande pas souvent ta présence. Je demande souvent que tu changes les autres, mais, Seigneur, pour être honnête, je ne demande pas souvent de me changer moi, de voir ma complémentarité plutôt que de voir les autres qui devraient être comme moi. D'apprécier ceux qui sont complètement différents parce qu'ils me protègent une faille dans mon côté de voir les choses de telle ou telle façon. Ça m'équilibre, Seigneur. Est-ce que tu peux changer, Seigneur, mon regard sur mon travail, sur mes collègues, sur ma manière de regarder mon patron, de regarder pourquoi je me lève le matin et de juste penser à la retraite, de juste penser au jour où je serai libre du travail plutôt que de voir la bénédiction que je peux te glorifier, je peux te servir, je peux servir le Créateur dans mon travail. C'est extraordinaire, Seigneur. J'ai complètement oublié ça, j'ai perdu ça de vue. Accorde-moi, Seigneur, de la loyauté envers mon Créateur. Et que tout ce que je fais, je le fais avec le mieux que je peux. Avec zèle, avec amour. Et que si les gens voient quelque chose en moi, ça ne sera pas un chialeux puis un placoteux dans le dos des autres, mais quelqu'un qui aime Dieu puis qui est fidèle et constant au travail. Mais que ma vie, ce n'est pas le travail non plus. J'ai une famille, j'ai un équilibre, j'ai une église locale, j'ai des voisins. Puis je veux m'occuper de tout le monde aussi, avec équilibre. Je ne veux pas juste me trouver ma valeur au travail, Seigneur. Ma valeur, c'est toi. Et toi seul qui me donne ma valeur, comme enfant de Dieu, comme héritier du royaume céleste. Je ne suis pas juste un Canadien, un Québécois, Seigneur. Je suis un enfant de Dieu, un fils du Dieu très haut, un citoyen du ciel. Aide-moi à vivre cette citoyenneté-là sur terre. Mais si je ne suis pas encore citoyen du ciel, Seigneur, ce matin, je veux te demander pardon pour mes péchés. Te demander de prendre la place que tu mérites dans ma vie. Merci d'avoir envoyé Jésus pour pardonner mes péchés. J'en ai besoin. Et je te demande pardon. Prends mes péchés, Seigneur. Merci d'avoir pris ma place. Merci de me donner une deuxième chance quand personne n'aurait pu m'en donner une. Moi, je ne pouvais pas rien faire pour mes péchés, mais je comprends que le Fils de Dieu, Jésus, Dieu fait homme, peut faire ça. Et je le crois ce matin. Prends toute la place, Seigneur, s'il vous plaît. Et redonne-moi une vision biblique qui honore Dieu de pourquoi je suis sur terre et à quoi sert mon travail. Seigneur, tu connais toutes ces prières qu'on entend ce matin. Je te remercie aussi pour l'offrande spéciale ce matin où plus de 3 000 $ ont été amassés juste pour l'offrande spéciale. Il va continuer à amasser à travers les dons des prochaines semaines, des dons en direct, etc. Merci pour cet argent qui est donné pour ton royaume, qu'on puisse l'utiliser pour t'honorer et te faire lumière, ta lumière puisse luire dans cette région et à travers nos missionnaires dans le monde entier, qu'on utilise cet argent pour te glorifier, Seigneur. On te remet cette célébration ce matin, ces besoins, ces prières, dans le nom de Jésus. Amen.